Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la décision inattendue de la Cour d'appel de Paris qui relance la bataille judiciaire sur le sort de Vincent Lambert. La justice a ordonné hier soir la reprise des traitements interrompus quelques heures plus tôt et une fois encore, la famille se déchire. On va en parler à 7h50 avec votre invitée Alexandra Ben Saïd.
Oui, le sort de Vincent Lambert ce matin, de quel côté l'acharnement? Est-il encore possible de prendre une bonne décision? La loi est-elle mal faite? Jean-François Delfraissy, le président du Comité consultatif national d'éthique, sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Alexandra. Les autres titres, Agnès.
Emmanuel Macron et le risque existentiel de l'Europe. Un sursis pour Huawei qui a 3 mois pour utiliser des composants américains dans ses portables. Le festival de Cannes où l'art de dégoter des invitations. Et puis la mort d'un des plus grands pilotes de Formule 1, Niki Lauda, dont l'éternelle casquette cachait les stigmates d'un terrible accident.
Et à 8h20, la suite de nos grands entretiens spéciaux. Vous connaissez le principe, une tête de liste aux européennes tous les jours au micro de France Inter. Aujourd'hui, c'est Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Vos questions dès maintenant. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. La décision est tombée un peu avant 23h. La Cour d'appel de Paris a donc ordonné la reprise de l'alimentation et de l'hydratation pour maintenir en vie Vincent Lambert. Le temps que le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées tranche sur le fond. Une décision provisoire donc, mais qui peut durer plusieurs années. C'était le dernier recours déposé par les parents de Vincent Lambert qui ont appris la nouvelle hier soir alors que 300 personnes manifestaient à Paris contre l'arrêt des traitements. Rémi Brancato.
Dans un calme religieux, les quelques 300 manifestants venus initialement interpeller Emmanuel Macron, assis sur la pelouse du rond-point des Champs-Élysées, ont patienté une vingtaine de minutes avant d'exploser de joie. Les deux avocats des parents de Vincent Lambert, Jérôme Triomphe et Jean Payot, viennent de recevoir la décision de la cour d'appel.
Vincent doit vivre ! Vincent vivra !
Jérôme Triomphe téléphone alors à Viviane Lambert, la mère. La Cour d'appel de Paris ordonne donc le rétablissement des traitements, le temps de permettre à l'ONU et à son Comité des droits des personnes handicapées de se pencher sur le cas de Vincent Lambert. Jean Payot exulte.
Aujourd'hui, la France est rappelée à ses obligations. Ce n'est que la première des victoires, c'est la remontada.
Alors les avocats sont littéralement portés sur les épaules des manifestants, beaucoup de catholiques pratiquants.
C'est une décision qui est normale.
Antoine de Villers est soulagé.
Ce qui est inattendu, c'est toutes les décisions précédentes.
Marilyn, elle, appelle à continuer la mobilisation.
Une grande inquiétude demeure parce qu'aujourd'hui, le respect de la vie n'est plus une évidence.
Les manifestants demandent désormais le transfert de Vincent Lambert dans un établissement spécialisé.
Une décision incompréhensible en revanche pour les proches de Vincent Lambert qui souhaitent mettre un terme à cet interminable feuilleton qui dure depuis plus de 10 ans. Son épouse ne s'est pas exprimée après cette décision. Son neveu, François Lambert, dénonce lui un sadisme pur et s'interroge sur le sens de cette décision.
Il faut qu'ils comprennent, les juges qui ont rendu cette décision, que concrètement ils ont mis une cinquantaine de juges administratifs et européens des droits de l'homme, plus une quinzaine de médecins, ils ont décrété que ces gens-là ne valaient rien et qu'eux, ils savaient. C'est ça concrètement qu'ils ont dit. Hein. C'est 3 juges judiciaires qui ont décidé de ça. Il faudrait qu'ils se rendent compte de l'importance de leur décision et de la responsabilité qu'ils prennent à faire ça. Il s'agit d'un être humain, il ne s'agit pas d'un objet. Voilà, je vous dis, je suis très en colère quand il y a des juges qui font ce genre de choses. Il y a un moment, on n'est plus vraiment dans le juridique, moi, je trouve. Il y a un moment, ça devient du militantisme, ça devient de l'émotionnel, ça devient autre chose que du juridique. Voilà, je trouve que c'est très malsain et j'espère que le juridique restera le juridique, le médical restera le médical, ce serait quand même la base de tout. Mais ça, malheureusement, pour le moment, c'est pas le cas.
François Lambert interrogé par Lisa Guyenne, le CHRU de Reims pourrait se pourvoir en cassation. En attendant, les parents de Vincent Lambert ont l'intention de se rendre tôt ce matin à l'hôpital pour vérifier la reprise des traitements. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Alors que va-t-il se passer maintenant?
Eh bien, le médecin est tenu de suivre la décision de la justice. Alors médicalement, ça n'aura pas d'incidence. Il s'est passé trop peu de temps depuis l'arrêt de l'alimentation et l'hydratation. En 2013, un premier arrêt des traitements avait été mis en place, un arrêt progressif, et Vincent Lambert n'avait pas été alimenté alimenté pendant plusieurs semaines. Un jugement avait déjà ordonné une reprise. Il n'y avait pas eu de conséquences physiologiques. Quant à la sédation, elle était continue, donc régulière. Il suffira de ne pas la renouveler pour que Vincent Lambert se réveille. Mais au-delà, nombre de médecins ne comprennent pas. Le docteur Éric Carigère, c'est le premier médecin qui avait dû reprendre les traitements, me disait hier soir qu'il était incapable de commenter tellement il était sidéré. Ce matin, le professeur Régis Aubry, spécialiste de soins palliatifs et ancien président de l'Observatoire de la fin de vie, pense à l'équipe médicale qui va être obligée d'appliquer cette décision.
C'est quelque chose d'extrêmement difficile pour le médecin, et en particulier je pense au docteur Sanchez, cette personne qui a tout fait pour être en conformité avec une éthique du respect de la personne, est aujourd'hui contraint d'arrêter ce qu'il avait fait en conformité avec la loi. Il y a quelque chose de désarçonnant. Médicalement, ce revirement n'est pas compréhensible.
Il faut rappeler que Agnès Buzyn, elle-même médecin, avait déclaré en tant que ministre de la Santé que la France n'était pas tenue de respecter la demande de ce comité de l'ONU. Un comité qui ne connaît pas ce cas, une décision de justice qui semble en contradiction avec la loi Claeys-Leonetti et sa définition de l'obstination déraisonnable. Une histoire qui semble aujourd'hui sans fin et qui repose la question du maintien de la vie à tout prix.
Merci Daniel Messager, spécialiste des questions de santé sur France Inter.
Et je vous rappelle que Jean-François Delfraissy, qui préside le comité d'éthique, sera à 7h50 l'invité d'Alexandra Ben Saïd. Il est 7h06, Emmanuel Macron face au risque, Agnès, de dislocation de l'Europe.
Ce sont les mots employés par le chef de l'État qui, à 5 jours du scrutin européen, monte en première ligne, un scrutin qu'il qualifie de plus important depuis 1979. Bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
Une tribune publiée donc dans une quarantaine de quotidiens régionaux, une tribune volontairement alarmiste, Cyril ?
Alors on avait bien compris que le président ne voulait pas être spectateur, mais bien, comme il le précise, un acteur de cette élection européenne. Il a une responsabilité devant l'histoire, il se définit comme patriote européen et affirme ne pas avoir l'esprit de défaite. Le chef de l'État s'en prend à nouveau aux nationalistes qui veulent diviser l'Europe et qui sont ses premiers ennemis, avant de dénoncer une connivence entre ces nationalistes et des intérêts étrangers dont l'objectif est le démantèlement de l'Europe. Le président a deux adversaires, le Rassemblement National qui a voté à Strasbourg, je cite, « contre tout ce qui est dans l'intérêt de la France, leur projet affaiblit la France et divise l'Europe », mais aussi l'abstention, un échec pour la démocratie selon lui. Ne pas aller voter, c'est donner sa voix à ceux qui ne veulent que détruire, c'est le 26 mai ou jamais. Le président de la République, comme l'ont fait ses troupes depuis plusieurs jours, appelle à une Europe concrète. Au rang des propositions, Emmanuel Macron, qui jure ne viser aucun poste d'influence pour le pays au sein des institutions européennes, souhaite une convention fondatrice après les élections pour définir, dit-il, avec les citoyens, une stratégie commune pour les 5 prochaines années. Moins flou, il réclame également une taxation commune du kérosène en Europe et de viser là l'électorat jeune et sa conscience aiguë des sujets écologiques.
Merci Cyril Gradiani. Une interview qu'ont refusé de publier La Voix du Nord et le Télégramme de Brest, car la présidence a demandé à relire le texte avant publication. Une présence du chef de l'État raillée par la tête de liste de la France Insoumise hier soir lors d'un débat télévisé. C'est Docteur Loiseau et Mister Macron, a ironisé Manon Aubry. Édouard Philippe, de son côté, sillonne la France. Angers, Toulon et Vesoul hier, Valenciennes aujourd'hui et Orléans jeudi, pour s'adresser à des maires de centre droit macro-compatibles. Et pendant ce temps, les députés continuent d'examiner le projet de réforme de la fonction publique avec hier soir l'adoption d'une expérimentation durant 5 ans des ruptures conventionnelles dans la fonction publique sur le modèle du secteur privé. Une mesure critiquée par la gauche qui craint des départs en nombre, notamment dans les hôpitaux publics qui ont déjà du mal à recruter.
Et à 7h09, Agnès, on passe à la bataille technologique entre Washington et Pékin.
Avec au cœur de ce bras de fer le géant chinois des télécoms Huawei. Il y a une semaine, Donald Trump interdisait aux entreprises américaines de commercer avec le numéro 1 chinois du secteur. Une position légèrement assouplie puisque les États-Unis accordent un délai de 3 mois à Huawei avant de possibles restrictions. Explication de notre correspondant à Washington, Grégory Phillips.
Au nom de la sécurité nationale, Donald Trump signait mercredi ce décret interdisant aux entreprises américaines de vendre leurs produits technologiques à Huawei. Mais 5 jours plus tard, le secrétaire au commerce, Wilbur Ross, tente visiblement de calmer le jeu et annonce un délai de 3 mois avant la mise en place de ces sanctions. Cela signifie que dans les 90 jours qui viennent, Google, par exemple, pourra continuer à vendre à Huawei son système Android ou ses applications, mais pas au-delà. Pour Washington, le numéro 2 mondial des smartphones est beaucoup trop proche du pouvoir de Pékin et soupçonné d'espionnage, mais le bras de fer va en vérité bien au-delà du dossier Huawei, puisqu'Américains et Chinois n'ont toujours pas trouvé d'issue au conflit commercial qui les oppose depuis 10 mois, à coups de menaces et de sanctions à plusieurs milliards de dollars. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et Huawei déclare ce matin être en discussion avec Google pour tenter de trouver une solution. Et puis une bourde qui coûte cher à Amazon. Le géant américain va devoir verser 3 millions d'euros à la ville de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne, où un entrepôt de plus de 142 000 mètres carrés doit être construit d'ici septembre. Une erreur administrative qui fait passer la taxe d'aménagement communal de 0 à 3 millions d'euros. Au programme aujourd'hui à Cannes, le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Ce sera le sujet de Cannes & Co dans 10 minutes. Et nul doute que les billets vont s'arracher pour la projection ce soir, car la recherche des billets est un vrai sport de compétition sur la croisette. Delphine Evenou a tenté sa chance.
À Cannes, sans accréditation, le Graal est un papier bleu de 16 cm sur 7 et s'obtient avec des yeux de cocker, un sourire, de la patience et une pancarte créative pour certaines.
Une imitation d'un clap de cinéma, bon, c'est en rapport avec le festival forcément.
D'autres vont à l'essentiel.
Invitation please, classique.
C'est pas du Baudelaire.
Il faut aussi élaborer une stratégie.
Moi j'ai des techniques. Il y a deux passages piétons qui encerclent le palais. Quand on est des groupes de deux, généralement il y en a un chacun qui se met sur chaque passage piéton. Faut jamais aller au-delà du passage piéton.
On se répartit un petit peu partout autour du palais. L'idée c'est de trouver des points de convergence en fait de gens qui sortent et qui rentrent.
Et parfois la victoire relève du miracle.
Vendredi c'était pour The Shining. C'était un monsieur qui s'est arrêté, qui nous a parlé. Bon, on avait fait une faute d'orthographe sur le titre, on avait mis deux N à Shining.
Si les groupes sont soudés, le microcosme du festival est parfois une jungle.
Est-ce qu'on peut balancer sur les concurrents? Il y a une calamité quand on cherche des invites. Ce sont les personnes d'un certain âge. Elles sont féroces, elles se jettent sur les gens en face, elles piquent dans les sacs. Vraiment,
c'est
véridique.
Vraiment,
hein, véridique.
Vu, hein.
Oui, moi aussi. Enfin, c'est, voilà, c'est un calvaire.
Pour ce soir, la guerre s'annonce rude. D'avis de chercheurs d'invitation, les places pour le dernier Tarantino sont quasi impossibles à trouver.
Il est 7h12, la disparition Agnès d'un génie de la Formule 1, Niki Lauda.
Gravement brûlé lors d'un accident spectaculaire sur le circuit du Nürburgring en 1976, le pilote avait réussi à remporter un nouveau titre dès l'année suivante. Et c'est après avoir contracté une infection pulmonaire l'été dernier à Ibiza que le champion s'est éteint hier à 70 ans. Guillaume Batin.
Niki Lauda, c'était le visage de la Formule 1. Brûlé par l'incendie de sa Ferrari en 76 sur le circuit du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, la casquette toujours vissée sur la tête, l'oreille droite en moins, le front et la joue greffés avec la peau de sa cuisse droite, transplanté d'un poumon et d'un rein, le triple champion du monde souffrait tous les jours. Celui qui était surnommé le robot sur les circuits a remporté 3 couronnes mondiales. En 1975 et 77 avec Ferrari, en 1984 chez McLaren avec Alain Prost comme coéquipier. Son autre passion, l'aviation, lui a fait vivre un deuxième enfer. Le 26 mai 1991, le Boeing 767 de la compagnie qui portait son nom s'écrase entre Bangkok et Vienne. Il y a 223 passagers à bord et aucun survivant. « Quand je risquais ma vie, c'était mon choix, disait-il, là les gens sont morts dans un de mes avions, cela m'a détruit. » L'état de santé de l'Autrichien s'était dégradé l'été dernier pendant ses vacances à Ibiza, une infection pulmonaire qui aura finalement eu raison de lui.
Niki Lauda, une vie dans les paddocks, c'est à lire aussi sur franceinter.fr.
Merci Agnès Soubiran.